La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous a donné l'image, Jésus nous a donné l'image. La réunion se poursuit par des prières d'intercession lues par le prédicateur. Ces prières font partie des grandes réunions d'été des croyants et sont intégrées au programme à plusieurs reprises au cours de la réunion. Les prières d'intercession portent principalement sur les différentes situations difficiles que traversent les gens dans leur vie. Parfois, les prières d'intercession comportent également un remerciement. La Bible montre que les chrétiens ont toujours prié les uns pour les autres et pour les affaires communes. Paul a notamment exhorté à prier pour les gouvernants afin que la bénédiction de Dieu se porte sur tout le peuple. Voir première épître pour Timothée, chapitre 1, versets 1 à 2. Les prières d'intercession sont un reflet de leur temps. Elles mettent en lumière les sujets qui, en ce moment même, sont source de chagrin et de malheur pour les gens. De nombreux visiteurs de la Réunion trouvent ces prières émouvantes. La détresse d'un prochain inconnu nous interpelle et nous rappelle que nous ne pouvons pas savoir quel fardeau portent en eux les personnes que nous rencontrons. Parfois, le sujet de la prière touche profondément l'auditeur et lui fait prendre conscience que d'autres vivent également sous le poids du même chagrin ou de la même détresse. La prière d'intercession est une manière de se soucier de son prochain et de prendre soin de lui. De nombreuses personnes ayant traversé des moments difficiles ont raconté à quel point elles avaient eu le sentiment que ces prières d'intercession les avaient soutenues. Le simple fait de savoir que d'autres prient pour moi peut être une source de réconfort au milieu des épreuves. La prière contient toujours un espoir qui repose sur le fait que Dieu connaît chaque être humain et les étapes de sa vie. Dieu Tout-Puissant a le pouvoir et la force d'agir pour le bien de celui qui lui demande de l'aide, et en particulier pour le bien de son âme immortelle. Nous prions. Dieu Saint, notre cher Père Céleste, nous avons confiance en toi. Tu entends nos prières. Accueille dans tes bras ceux qui ont demandé cette prière d'intercession, ainsi que leurs proches, et réconforte-les dans leur détresse. Écoute-nous au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le prêche commencera dans un instant. Pour l'introduction de mon prêche, je dis la parole de Dieu dans l'Ancien Testament du livre de Néhémie, chapitre 8, le 12 premier verset. Alors, tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uriel, Ilkia et Maaseia. Et à sa gauche, Pedaja, Michael, Malkia, Ashum, Ashabadana, Chakari et Meshulam. Estra a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Estra a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen », en levant les mains. Puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shabetai, Odia, Mazeha, Kelita, Azaria, Mozabad, Anan et Pelaja, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple, et celui-ci est resté debout sur place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il s'en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et ses scribes Estra et les lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne soyez pas tristes. » L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grands réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Au nom de Jésus, Amen. Ce texte, qui date depuis de plusieurs millénaires, ouvre-nous une perspective sur l'ancien Jérusalem. Sur la grande place, il y a une foule qui est rassemblée. Il semble qu'il y a beaucoup de monde, de tout âge, d'hommes et de femmes, des hommes et des femmes, des adultes, des personnes âgées et probablement aussi les enfants. Il y avait toutes sortes de personnes qui étaient capables de comprendre ce qu'ils entendent. Nous savons bien que même les petits enfants commencent très vite à comprendre ce qu'ils entendent. Surtout quand on parle de parole de Dieu, la compréhension de l'enfant est souvent très claire. Et on dit dans notre texte que ce peuple est parti comme un seul homme. Ils ont compris qu'il était important de venir. Et je comprends que dans la Terre Sainte, à cette époque, il y avait des gens qui vivaient à Jérusalem, mais aussi ceux qui vivaient autour de cette ville. Et notre texte dit que c'était le septième jour du calendrier juif. le premier jour du mois. Et si nous examinons la loi de Moïse, nous pouvons voir que ce septième jour, que le premier jour était le jour Jean Saint que Dieu avait établi pour le peuple d'Israël. Et je pense que cette période, selon notre calendrier, est à la fin de l'automne, vers la fin d'octobre ou le début de novembre. Mais en Israël, ce temps, il y a une. Le temps était douce, il était bien rassemblé. On mentionne ici le scribe Esdra, et on lui avait demandé d'apporter le livre de la loi de Moïse qui contenait les commandements que le Seigneur avait donnés à Israël. On lui avait donc demandé de servir dans cette réunion et le peuple avait soif de la parole. Et ici, dans la réunion d'été, à l'ouverture de la réunion d'été, on a entendu que cette réunion d'été se tient depuis des années, depuis 120 années. Mais nous constatons dans ce texte que cette grande réunion a déjà été organisée avant. Quand j'ai été invitée pour prêcher à la réunion d'été, j'avais pensé quel pourrait être le texte que je lis. Et très vite, je me suis dit que ce serait le livre de Néhémie. Ça pourrait même être tout le livre de Néhémie, mais pour des raisons pratiques, la lecture d'un livre biblique entier n'est pas possible. Mais livre de Néhémie est un ouvrage très intéressant pour tout le monde. Je recommande à vous tous, aussi bien aux enfants et aux jeunes, ainsi qu'aux personnes de tous âges, de le lire en entier. Souvent, dans ces prêches, on prend un petit extrait du texte. Et on en parle. Et bien sûr, on fait référence à d'autres passages. Mais souvent, la révélation de la parole de Dieu s'ouvre de manière merveilleuse lorsqu'on lit l'ensemble du texte. Ce livre de Néhémie s'inscrit historiquement dans le période où le peuple d'Israël était revenu de l'exil babylonien environ 450 ans avant la naissance de Jésus. Il y a des autres livres dans la Bible qui font partie ou qui datent de cette même époque et traitent le même sujet. Le livre d'Esdra est celui d'Esquer. Puis le livre de prophète, le livre de Zacharie et de Malachie. Ces livres sont liés à cette même époque. La lecture de la Bible est très utile et importante pour nous. Même si, à mon expérience, il est facilement oublié et nous lisons plus facilement les autres livres. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui valent la peine d'être lus. Mais n'oublions pas de lire aussi la Bible. La Bible, un recueil de textes rédigés au fil d'une longue période. Et pas n'importe quel texte, mais croyant, comme le dit Paul à Timothée. Que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est ça, à l'époque de rédaction de la Bible. Et depuis, le monde a bien changé. De nombreux peuples se sont élevés et ont disparu. Et dans le livre d'Ecclésiaste, on dit, j'ai appliqué mon cœur à recherche et à explorer par la sagesse tout ce qui s'est fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. Au fil du temps, la conception de l'homme est changée. Maintenant, par exemple, nous constatons que le monde est rond et non pas un disque plat. Mais même si plusieurs choses ont changé dans ce monde au fil des âges, les principes fondamentaux sont restés tout à fait inchangés. L'être humain, au fond, n'a pas changé. Et aussi bien Dieu et sa parole sont restés et resteront les mêmes. La Bible décrit en manière générale les événements historiques de la nature et les différentes étapes de l'histoire des peuples. Et la Bible exprime plusieurs choses en manière simple. Par exemple, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Même un enfant peut le comprendre. Mais pour quiconque est un peu plus sage, cela pose un problème déjà. Et Jésus a dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Elle les a révélées aux enfants. Dans notre Bible, nous trouvons des belles pensées et des textes poétiques riches. Par exemple, dans le chant des cantiques, dans le livre des psaumes, cette belle expression n'est pas une fille, enfin, en soi, mais elle soutient aussi pour nous comprendre la révélation complète de Dieu. Mais c'est quoi le fin ou le cœur de la révélation biblique? C'est bien que Dieu est toute-puissante, créateur, qu'il a créé tout invisible. Il a tout créé. Et ensuite, ce qui est important, de savoir comment Dieu sauve l'humanité tombée dans le péché. Et le cœur de la révélation biblique est son personnage central. C'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, dont Moïse et les psaumes et tous les prophètes ont annoncé, comme Jésus l'a lui-même enseigné. Il est bon de se souvenir quand nous commençons à étudier ce livre de Néhémie. Je me suis dit que je n'allais pas tout dire sur ce livre, car je vous recommande de le lire vous-même. Mais je vais tout de même prendre quelques points remarquables qui donnent un sujet de réflexion. Alors, ce livre qui est écrit 450 ans avant Jésus-Christ, décrit comment le peuple d'Israël a commencé à s'établir sur sa propre terre après sa période d'exil, et comment également la vie spirituelle et la vie en général a commencé à s'organiser. Et bien de revenir sur ce qui était passé auparavant. Le peuple s'était détourné de Dieu. Le peuple qu'il avait promis d'être le sien. Le peuple s'était détourné de Dieu et il a adoré des idoles. Et il y avait une décadence morale qui entraîne les conséquences. Par exemple, il y a de l'égoïsme. Comme on peut le lire dans le livre des prophètes. Au début du livre d'Ésaïe, on parle de cela. Ciel, écoute. Terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils sont abandonnés l'Éternel. Ils sont méprisés le sang d'Israël. Ils sont faits volte-face. Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ concombre, comme une ville épargnée. Et encore dans le livre de Proverbes, on dit: la justice fait la grandeur d'une nation, mais le péché est le déshonneur des peuples. C'est une chose grave et d'actualité. Et il est bon faire une réflexion même aujourd'hui. Comme l'avaient dit les prophètes, il s'est passé que les peuples voisins ont conquis Israël, ils ont brisé le temple et volé ses trésors, et le peuple a été amené de force à plus de 2 000 km de là, en exil de Babylone. Si nous essayons de penser de cette situation, imaginer une telle situation pour notre propre peuple, on peut affirmer que c'est une situation qui semble désespérée. Mais ce prophète Jérémie, qui a plusieurs fois essayé à dire au peuple d'Israël pour ne pas abandonner Dieu. Et après, Jérémie a envoyé une lettre pour ce peuple. Le Seigneur, Dieu d'Israël, dit à tous les exils qu'il a déportés de Jérusalem à Babylone, construisez des maisons et installez-vous-y, plantez des jardins et jouissez des fleurs, de leurs fruits. Prenez des femmes pour vous, qu'il vous naisse des fils et des filles. Multipliez-vous, ne diminuez pas. Et ensuite, une chose très importante, recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, nous étudions un peu Néhémie. Quelle sorte de personne était-il? C'était un homme juif. Il n'était ni prophète, ni prêtre. Et quand l'Empire perse avait conquis Babylone, où les Israélites avaient d'abord été exilés. Alors, cette Néhémie occupait un poste haut fonctionnaire au service du roi de Perse. C'est là que on peut voir que lorsque les croyants avaient suivi le conseil du prophète Jérémie, qui avait dit de rechercher le bien-être de la ville où ils habitent. Alors, ces personnes talentueuses avaient eu des postes importants. Alors, ils avaient la confiance du souverain et ils voulaient agir sous l'autorité en faisant ce qui était juste, comme il plaît à Dieu. J'ai l'impression qu'à cette époque, en Perse, il existait une grande diversité de religions. On adorait toutes sortes de dieux, mais il y avait également liberté de croire à ce qu'on voulait. Alors, les Juifs pouvaient aussi pratiquer leur propre religion et adorer leur propre Dieu. Cela pouvait être un choix stratégique de la part du souverain afin d'éviter les révoltes et maintenir la paix parmi le peuple. Mais quoi qu'il en soit, les conditions sociale de l'époque et l'attitude de ces souverains ont fait possible que le peuple d'Israël, alors les Juifs, puissent retourner dans leur patrie. Dieu seul guide les destinées des peuples. Et il fait changer d'avis les souverains et il influence leurs actions. C'est lui qui donne le pouvoir aux souverains et qui le retire également. C'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui encore penser avec confiance, même si nous suivons ces nouvelles du monde qui sont très inquiétantes, que le Père Céleste sait ce qui va arriver à ce monde. Et nous ne devons pas nous en inquiéter. Je n'ai malheureusement pas le temps d'aborder, même si j'aimerais bien, comment on a construit là-bas les remparts de Jérusalem. Et ce travail était vraiment magnifique, de voir comment des familles, des hommes et des femmes de tous âges ont construit ce mur tous ensemble. Aujourd'hui encore, lors de ces réunions, nous pouvons réjouir de voir comment ici également le peuple, tout le monde a trouvé la force de travailler. Et je suis reconnaissant à tous, à vous qui, chacun à votre manière, a contribué à rendre ces réunions possibles. Et j'ai eu la chance de participer à la réunion d'été depuis aussi longtemps que je me souviens. J'ai également beaucoup participé à diverses tâches pour organiser la réunion d'été. Et j'ai eu, cela m'a laissé des bons souvenirs, même si le départ n'a pas toujours été facile. Et je sais que parfois, il y a ceux qui ont trouvé difficile de partir ici. Mais Dieu nous a donné la force et nous pouvons lui en être reconnaissants. Et je ne peux m'empêcher aujourd'hui de penser de mon père et ma mère. Parce que chez nous, à la maison, il y avait une chose importante de partir à préparer ensemble, de participer aux travaux bénévoles pour organiser cette réunion d'été. Et mon père nous a emmenés avec lui, les enfants. Et nous étions avec notre père et il nous confiait des tâches adaptées à notre âge. Et peut-être ces tâches n'étaient pas très important en soi, mais peut-être c'est la facilité de nous tenir proche de lui. Mais nous avions cette impression que participer à des travaux collectifs pour organiser la réunion, c'est un travail qui a un sens. Et avant tout, le fait d'aller à ces réunions. Je trouve émouvant qu'une fois mon père, qu'il déjà sa mémoire avait commencé à faiblir, il m'a montré une partie de cantique dans le livre de cantique qui dit: Aide-nous quand nous fouillons au-delà du fleuve du Babel pour que nos chants de gratitude résonnent sur nos terres natales. Mon père est maintenant là-bas, attendant la réunion qui commence et ne finisse jamais. Puis, dans le livre de Néhémie, on peut voir également, comprendre que l'œuvre du royaume de Dieu et la construction de la muraille de Jérusalem ne plaisait pas aux habitants des environs. On a moqué les constructeurs et on a même tenté par la violence d'empêcher la construction de la muraille. C'est le travail de l'ennemi de l'âme. dans cette terre sainte, dans cette région et ailleurs, nous entendons parler des guerres qui sont la conséquence du péché, œuvre de l'ennemi de l'âme. Au fond, comme la Bible elle-même mentionne, ces conflits sur les frontières des pays. Il s'agit que l'adversaire de Dieu, l'ennemi de l'âme, les cause, c'est son œuvre dans ce monde. Nous avons un combat contre de l'ennemi de l'âme. Comme enseigne Paul, nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre les principes et les puissances de ce monde, et contre les esprits maléfiques. En d'autres termes, nous ne combattons pas les hommes. Et c'est pourquoi il me semble important de mentionner maintenant, car nous rencontrons des gens qui pensent différemment des choses que nous. Comme nous le savons, que la Bible nous enseigne que nous rencontrons tous les hommes avec amour et douceur. L'Esprit de Dieu nous enseigne à répondre par l'amour lorsque nous. Et que nous pouvons lire dans le livre, dans l'Épître aux Éphésiens, comme Paul conseille de prendre l'amour de Dieu, que nous ayons la vérité en guise de ceinture et la cuirasse de la justice. Et Paul aussi dit aux Philippiens que votre douceur soit connue de tous les hommes. Les mémis de l'âme tentent également de faire la désaccord entre les croyants, comme à l'époque de Néhémie. Il y avait une situation où on a commencé à recouvrer des dettes auprès de frères et sœurs, déjà dans le besoin. Et un tel esprit exigeant peut également s'installer entre les croyants. Et c'est pourquoi il est important que les choses sont réglées, on demande pardon, comme cela se faisait autrefois. Dieu est également venu en aide dans ces situations. Avant, on sonnait la trompette chaque fois qu'une telle situation se présentait. De nos jours, nous n'avons pas beaucoup de trompettes, mais nous avons bien des téléphones portables pour nous communiquer. Ce sont des bons appareils, mais il est important de se rappeler qu'ils ne remplaceront jamais le fait de se retrouver tous ensemble, face à face. Surtout, quand il s'agit de discuter des questions les plus importantes. Alors, dans ces réunions qui se tiennent sur la place de la porte de Dieu, de l'eau, c'est là que Ezra et les Lévites lisaient la Bible, passage par passage. Et le peuple pleurait, mais il était rencontré. Cette parole en éveillait le sentiment de péché. Paul dit, tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais là, quand on connaît son propre péché, c'est le premier pas sur le chemin de la conversion. Mais cela ne suffit pas pour le salut. Et ce peuple a pu entendre l'Évangile. On leur a dit, « ne pas être triste. Et cet évangile a eu un grand joie parmi le peuple. Et ils ont organisé une grande fête où on a loué Dieu par divers instruments et chœurs. Enfin, quand nous sommes ici à la réunion d'été, nous pouvons entendre la parole de Dieu plusieurs jours. Cette parole qui est vivante, puissante et plus tranchante que n'importe quelle lame, que n'importe quel épée. Ainsi, mon cher ami, comment cette parole te touche-t-elle? Est-ce que la lumière de cette parole révèle toute la poussière et toute mais ou est-ce qu'elle révèle la faiblesse humaine ou le doute à la guidance de Dieu et les chutes aussi? Ou est-ce que tu penses que la parole de Dieu est peut-être un discours dur qui n'est plus d'actualité et qu'elle ne te concerne pas et ne t'intéresse pas? Et ces réunions n'ont pas été organisées pour que les gens pleurent et restent dans l'angoisse, mais c'est maintenant le temps de la grâce. Et aussi, comme près de la porte de l'eau, 400 ans plus tard, Jésus s'est levé d'une voix pour proclamer que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et quiconque croit à moi, des fleuves d'eau jailliront de plus profond de lui. Jésus lui-même est source d'eau vive. Et cette eau vive, c'est l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Le pardon des péchés en son nom et par son sang. Et on prêche encore aujourd'hui le pardon des péchés. Mes sœurs et mes frères, vous pouvez encore maintenant croire au pardon de tous les péchés. Vous pouvez croire que tous les péchés sont pardonnés au nom et au sang de Jésus. Tous les péchés sont pardonnés. Et ma vie aussi se repose sur cet évangile et de venir à vous parler. Ça me faisait peur. Est-ce que je peux vous transmettre ce message? Est-ce que je peux aussi croire mes péchés pardonnés? Je veux croire avec vous. Maintenant, nous pouvons aussi dire, Seigneur, c'est bon d'être ici. Au nom de Jésus, Amen.